Vous êtes sur le podcast de la CDI sur le design intégré. Dans cet épisode, nous parlerons de design intégré chez Mie & Mountain Group avec Johan Mougel, design manager Equipment & Footwear. Après nous avoir présenté son parcours, Johan nous parle de l'émergence des projets, que ce soit pour la marque Mie ou pour la marque La Fuma, en distinguant bien le positionnement de ces deux marques. Il revient sur l'importance du terrain, de la prise en compte des attentes des pratiquants. Il évoque également l'organisation interne, les équipes projets et l'organisation transversale de cette petite structure, et nous explique pourquoi les équipes internes ont parfois besoin de faire appel à des agences externes. Puis, il nous détaille les outils qui lui semblent les plus importants dans le développement d'un projet de design. L'empathie, la création de contenu par le dessin ou la photo, et enfin le prototypage pour faire la preuve du concept et crédibiliser les idées. Nous comprenons que chez Mie & Mountain Group, les designers interviennent de la naissance de l'idée au suivi de l'industrialisation, avec la prise en compte des impacts financiers, des choix qui peuvent être réalisés. Nous finissons l'épisode sur la question des impacts environnementaux. La Fuma est une marque engagée de longue date sur cette réflexion. Il nous parle donc d'analyse du cycle de vie, d'impact, de choix et de contraintes. Je vous laisse découvrir cet épisode. Merci d'écouter Raconte, le podcast sur le design intégré en entreprise de la CDI. Si vous aimez cet épisode, partagez-le autour de vous et pensez à le noter. Merci.
Bonjour Johan, merci d'être avec nous et merci d'accepter de participer à notre podcast. Donc pour commencer cet épisode, peux-tu présenter ton parcours s'il te plaît ?
Bonjour Annabelle et merci pour cette invitation. Je suis ravi de participer à ce podcast que je suis depuis ses débuts. Donc moi c'est Johan Mougel, j'ai 36 ans. Je suis design manager pour le Mie & Mountain Group sur les catégories chaussures et équipements. Depuis quelques années, à vrai dire, en fait, je n'ai connu qu'un seul groupe depuis mes débuts professionnels. Dans un premier temps, le groupe La Fuma et dans un deuxième temps, le Mie & Mountain Group, sous son nouveau nom et sa nouvelle organisation, nouvelle structure. Mon parcours, alors il est assez classique, on va dire. J'ai commencé par un bac STIR appliqué à Nancy, l'école de Jean Prouvé. Alors, pas cette école en particulier, mais Nancy est en tout cas connu pour ça. Ensuite, je me suis dirigé vers un BTS design de produits, l'ESSAB de Nevers, donc l'école supérieure des arts appliqués de Bourgogne de Nevers, qui a une bonne réputation, en tout cas sur cette formation en design de produits. Et puis ensuite, dans un souci, je dirais, de rentrer dans un univers beaucoup plus concret, j'ai opté pour une licence design de produits, pôle supérieur de design de Villefontaine, qui est rondement mené par Laurent Thiébault. C'était une grande satisfaction d'intégrer cette licence de design de produits au sein de cette école que je ne connaissais pas, que j'ai découvert justement lors d'une journée d'intégration, où j'ai pu découvrir aussi la licence maquette prototype qui joue aussi d'une belle réputation. Et d'autre part aussi, grâce à l'alternance que j'ai effectuée chez La Fuma, le groupe La Fuma, c'était en 2008, au sein du pôle design, qui était dirigé par Yann Le Gall, que vous connaissez tous sûrement, un des papes du design industriel, et sous le tutorat, je tiens à le souligner, de Raphaël Lazer, qui travaille actuellement chez Dessigny Associés à Lyon, qui a été autant qu'Yann mon mentor, et auprès aussi de Jean-Christophe Lescaut et Baptiste Neltner, qui est actuellement responsable design et collection pour La Fuma Mobilier, sur la partie mobilier justement de La Fuma, puisque je travaille sur la partie outdoor de La Fuma, où en fait voilà, les deux entités ont été séparées récemment.
Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, dans le groupe Mie, comment naissent les projets design, de qui vous dépendez ? Et tu as dit que tu étais sur l'équipement, donc sur quel type de projet tu travailles exactement ? D'où vient la demande et comment vous déroulez un peu les projets ?
Effectivement, ma spécialité, dès mes débuts en tant que designer, c'est l'équipement. Alors, ce qu'on appelle équipement au Mie & Mountain Group concerne les sacs à dos, concerne les sacs de couchage et une gamme d'accessoires assez large qui ne sont pas très représentatifs du chiffre d'affaires, mais on a quand même un panel de produits assez large. La partie chaussures, elle, est une entité qui est intégrée, on va dire, à l'équipement. Par contre, avec des équipes de développement différentes, bien évidemment. On va dire qu'on a une équipe plutôt pluridisciplinaire au niveau du design. Et moi, dans ma mission de design manager, donc je vais à la fois interagir sur l'équipement et la chaussure. Alors le produit, pour répondre à ta question plus concrètement, comment le projet est né chez Mie & Mountain Group, on va dire qu'il y a vraiment deux types de projets. Je travaille à la fois sur Miet et la Fuma, donc peut-être pourrais aussi discerner les projets au regard des marques. Je dirais que sur Miet, la plupart des projets viennent du terrain, auprès, donc ça c'est aussi relatif à l'univers dans lequel s'exprime la marque Miet, auprès notamment des montagnards, des personnes qui sont au contact de la montagne, de ce terrain exigeant avec des besoins très spécifiques. On va dire que c'est des utilisateurs, pour le coup, qui sont très impliqués. Et d'autre part, sur la Fuma, on est plutôt sur des utilisateurs qui ont une pratique de l'outdoor plus générale. Donc, sur les produits Miet, on va partir de l'expression des besoins, justement, des utilisateurs qui se situent plutôt en haut de la pyramide, dans un souci, donc là, ça va plutôt, pour les connaisseurs, concerner la catégorie des produits trilogie, qui sont sous l'emblème trilogie bleu-blanc-rouge, encore une fois, pour les connaisseurs. Effectivement, on va travailler avec des relations assez privilégiées, notamment avec les guides de Chamonix. Ça peut être avec le groupement militaire de haute montagne, où on a une approche beaucoup plus expérimentale, on va dire, des produits. Mais à la fois aussi, voilà, on n'est pas qu'avec des personnes perchées tout en haut de leur montagne, puisqu'il faut imaginer qu'un guide souvent accompagne ses clients et va lui-même aussi équiper ses clients. Donc il faut aussi, à un moment, on va dire, redescendre un petit peu de la montagne pour transposer ses besoins auprès d'utilisateurs, les confronter en tout cas à des utilisateurs un petit peu moins spécialistes, aguerris. Et là, c'est tout le sens aussi du design, de bien identifier les différents besoins. Voilà. Et puis sur la Fuma, on va dire on est un peu plus terre à terre. Je dirais que c'est plus facile, en tout cas, d'exercer notre métier de designer dans la mesure où on est sur des pratiques beaucoup plus accessibles. On est aussi entouré au Miet Mountain Group de pratiquants. On va dire que c'est nos premiers aussi utilisateurs, les premières personnes auxquelles on va confronter nos idées, on va confronter les projets. Et voilà, en même temps, on a cette proximité chez Miet, par exemple, d'être à Annecy et d'être vraiment au contact des Aravis, au contact de Chamonix. Donc c'est vrai que voilà, on a un regard quand même, je tiens à le préciser, qui est assez au savoyard, en tout cas franco-français, mais bien évidemment, il y a aussi une ouverture auprès de la zone germanique, suisse, auprès aussi des pays latins, donc la France évidemment, l'Italie et l'Espagne, qui sont aussi des marchés stratégiques pour le Miet Mountain Group.
Au niveau des projets, que ce soit la Fuma ou Miet, vous avez des équipements techniques et de l'appareil. Du coup, comment ça se répartit les projets? C'est-à-dire, il y a des designers pour s'occuper de la technique, piolet, sac à dos. J'ai vu une vidéo où tu travaillais sur un compartiment à crampons, par exemple. Et l'appareil est géré par d'autres équipes, ou est-ce que vous avez aussi un droit de regard sur l'appareil, par exemple?
Alors exactement, on travaille évidemment par catégorie de produits, par spécialité. Donc notamment, donc, comme je le précisais précédemment, au niveau de l'équipement des sacs à dos, donc je vais être le designer de ces produits. Alors entre autres, j'en parlerai peut-être un peu plus tard, mais on travaille aussi avec des collaborateurs externes. On a un designer sur la partie footwear. Sur la partie appareil, qui va faire quand même une bonne partie du chiffre d'affaires aussi des deux marques. Donc là, on a aussi des designers dédiés aux vêtements, hein, pour les francophones, bien évidemment. Par contre, le pôle de design, donc, qui est constitué de 6 designers en tout, donc travaille géographiquement, on va dire, dans la même pièce. On va être sur des échanges quotidiens. Vous imaginez bien la finalité de travailler sur la consistance, sur la cohérence, d'avoir une interaction quotidienne, spontanée, sur des tendances, sur des retours produits. Donc là, voilà, on est une toute petite équipe, on est une petite famille. Il y a beaucoup de spontanéité. On est dans un open space. On fonctionne pas vraiment en silo à ce niveau-là. Donc ça, c'est une grande richesse aussi. Par contre, moi, je reporte une équipe donc dédiée à l'équipement, une équipe dédiée au footwear qui est constituée donc d'un chef de produit, de développeurs. Et si on va au bout aussi du process, hein, puisque le design est aussi quotidiennement confronté aux contraintes économiques, on a un acheteur équipement, un acheteur footwear avec qui on va travailler aussi. Voilà. Donc on a un fonctionnement qui est vraiment très horizontal, on va dire. Hein. Il n'y a pas vraiment d'hierarchie, bien qu'on ait un responsable de bureau d'études équipement et footwear, Clément Farcy, qui va tout simplement manager l'équipe, concilier toutes les fonctions. On a en tout cas la place du design au sein du Miet Mountain Group. Elle existe à travers ce pôle et à travers, bien évidemment, ses équipes avec qui elle communique, l'échange tous les jours, elle construit les projets.
Est-ce que tu peux nous parler aussi des outils que vous utilisez pour développer les projets? Parce que justement, sur la vidéo où tu parles de ce coffret à crampons, on te voit manipuler des outils, on te voit dessiner, on te voit prototypée. Donc, j'aimerais bien que tu nous expliques dans votre univers de l'outdoor et de cet équipement qui est à la fois rigide et souple, quels sont les outils les plus importants pour toi dans ta démarche pour voir aboutir le projet, pour pouvoir le valider, le tester et quels sont les outils les plus importants ?
Oui, non, la question est intéressante puisqu'on a tous des pratiques assez différentes. Il y a la pratique théorique, scolaire, et puis il y a la réalité. Bien que je sois attaché quand même à ces méthodes assez scolaires, puisqu'on voit qu'en tout cas dans la méthode de design thinking, l'application des méthodes porte souvent ses fruits. Je dirais que le premier outil n'est pas forcément matériel, il est vraiment humain, comme je te le disais. On a la chance d'évoluer dans un écosystème hyper riche, en tout cas celui de la montagne, où pour ceux qui la connaissent, il y a beaucoup de spontanéité, de franchise, on a des personnes avec des caractères. Je dirais que l'humain, en tout cas le passé du temps dans une phase d'immersion, dans une phase empathique avec ces personnes, c'est vraiment le premier outil. C'est l'outil, c'est d'être sur le terrain, d'être physiquement présent, d'être pratiquant. J'apprécie travailler aussi avec des designers qui ne le sont pas du tout pour une ouverture sur d'autres sports, d'autres univers, d'autres domaines. Je suis moi-même pratiquant, alors pas d'alpinisme, mais de ski alpinisme, de trail. Alors ça peut parfois être aussi à double tranchant, parce qu'il ne faut pas prendre en considération son propre besoin, bien évidemment, il faut garder l'ouverture, mais ça permet quand même aussi de pouvoir s'immerger dans des endroits qui ne sont pas forcément toujours accessibles, de participer, comme on le voit très bien sur cette vidéo, de boîte à crampons semi-rigide, de participer à des événements sportifs. Il y a toutes ces opportunités en fait pour s'immerger et pour cerner ses besoins. J'insiste là-dessus, c'est vrai que c'est vraiment l'objectif, c'est de capter, de sentir le temps, de sentir les besoins, de sentir l'évolution des pratiques, l'évolution de l'environnement dans lequel on est. Et ça se fait pas forcément du lundi au vendredi, ça peut se faire le samedi, le dimanche, en vacances, etc. Donc c'est vraiment du quotidien et l'aspect, je dirais, passion est extrêmement important quand on travaille pour des boîtes comme la Fuma ou Millet. Alors ça, c'est le premier outil. Puis après, le deuxième, beaucoup plus conventionnel, c'est la phase de sketch, voilà, prendre une feuille de papier, un crayon, toujours avoir un petit carnet aussi pour dessiner, pour prendre des notes, son téléphone, prendre des photos, etc., créer du contenu. Bien évidemment, quand je parle de terrain, c'est aussi faire des salons, hein, rencontrer des acteurs aussi de l'outdoor qui ne sont pas forcément que des pratiquants. Hein. Ça peut être l'OSV, l'Outdoor Sport Valais, ça peut être aller voir un fabricant, un tisseur. Etc. Bon, ça veut dire que c'est la culturation, la culture aussi produit qui est importante, nécessaire quand on est designer. Il y a bien évidemment l'ouverture aussi à travers Internet et tous ces outils qui sont en pleine évolution. Je pense plus récemment à l'intelligence artificielle qu'on est en train d'expérimenter en interne pour accélérer la capacité de projection de l'idée. On voit qu'aussi ça peut avoir une influence dans une phase de mood board, de trend board, mais ça peut être aussi une manière d'accélérer sur des rendus pour permettre accroître, la capacité de projection de l'idée sans investir toute une machine des fois qui peut être lourde de développement, de prototypage. Et ça me permet du coup de parler de prototypage puisque pour moi c'est aussi l'outil indispensable, c'est le prototype, c'est la rapidité, la preuve de concept qui va justement crédibiliser l'idée. Et alors là, toute transparence, nous on passe à la machine à coudre, on découpe, on colle, on fait des monstres. En tout cas, dans une phase d'itération, le prototype reste indispensable. Tout ça, c'est en amont, de la phase de développement dans laquelle le designer chez La Fuma Millet est très intégré puisqu'on est quand même garant du design produit jusqu'à la phase d'industrialisation en accompagnant aussi le développeur. Donc ça, c'est super intéressant. Ça fait qu'on a un panel quand même de compétences qui est très large. On a un champ d'intervention qui est aussi très large, qui, je pense, assez spécifique à notre taille d'entreprise, à notre fonctionnement, quoi.
OK. Du coup, tout à l'heure, tu disais que vous étiez 6 designers à travailler sur l'équipement. Et du coup, comment vous répartissez les projets? Puis tu nous disais aussi que vous faisiez intervenir des personnes extérieures, peut-être des agences ou des indépendants. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup comment se répartissent les projets entre l'interne et l'externe et essayer d'expliquer aussi éventuellement à des entreprises qui pourraient écouter cet épisode pourquoi un designer interne, à un moment, a besoin de faire appel à un externe? Dans quel cas c'est nécessaire?
Alors, au niveau de la répartition des projets, il y a ce qui, on va dire, coule de source. Hein. S'il y a on décide de travailler sur un sac à dos, je vais en prendre la charge. Si on décide de travailler sur une chaussure, on va, avec Nicolas Thomas, donc le designer footwear, se pencher sur le projet. On va dire que ça va se faire de manière individuelle, parfois en équipe. Ça va aussi dépendre du type de projet. Où l'impact du design peut être un petit peu différent. Concrètement, un projet, on va dire, d'exploration, on va essayer de mettre le plus de personnes autour de la table. Un projet d'exploitation où le cadre est assez défini par le chef de produit. Voilà, on va mettre un seul designer sur le projet. Et sur des projets assez stratégiques, effectivement, on va faire appel à des collaborateurs externes. Bah, la plupart, vous les connaissez. Hein. On a Didier Pain de SingSing, qui est un collaborateur de longue date. Je vais pas tous les citer, mais en tout cas, faire appel à eux aujourd'hui, c'est indispensable. D'une part, parce qu'on peut pas subvenir à tous les besoins de création, et d'autre part, on a besoin de garder cette ouverture d'esprit, cette ouverture que peut nous apporter le collaborateur externe, pour des raisons assez évidentes, pour lui-même, sa culture, sa diversité de projets sur lesquels il travaille toute l'année dans différents domaines, auprès de différentes marques qui ont elles-mêmes des façons de designer différemment. Donc il y a cet échange qui se fait, il y a cette nécessité de se challenger perpétuellement, on va dire. On le fait par nous-mêmes et on le fait aussi par le biais de ces collaborateurs externes. Ouais.
J'aurais une dernière question pour finir cet épisode. C'est bien sûr, comme vous travaillez dans l'outdoor, et ben les impacts environnementaux de vos produits, comment vous les prenez en charge à l'étude, et surtout le changement climatique aujourd'hui, les sports de montagne, les sports de neige, les sports de glace, on peut se poser la question de leur avenir, et du coup, comment vous anticipez ces changements-là au sein des produits, au sein du développement, dans la stratégie d'entreprise ?
C'est aussi une question très intéressante, très contemporaine. On a vraiment une accélération, je dirais, sur la réflexion. Depuis peut-être le Covid, mais même avant, hein, je pense à la FUMA notamment, qui a été plutôt précurseur, en tout cas dans ses réponses, qu'il l'a fait avec plus ou moins de succès, mais dès les années 2000, en fait, la FUMA s'est posée cette question de comment demain une entreprise de cette taille, même si maintenant c'est une marque un petit peu plus petite qui a 20-25 ans, mais pouvait justement mieux anticiper cet impact que l'entreprise a. Donc ça, c'est quelque chose qui réellement concerne toutes les parties prises du projet aujourd'hui, à toutes les échelles, à tous les niveaux de l'entreprise. Plus concrètement, aujourd'hui, on va prendre en compte l'impact des produits avec un outil d'ACV, donc d'analyse de cycle de vie. On a un service aussi qui s'est structuré sur ces dernières années, géré par Bénédicte Desreux, donc qui travaille sur d'une part la RSE, d'autre part sur la qualité. Avec Eolia Masson, donc on va travailler plus spécifiquement sur l'outil d'ACV. On va l'utiliser en fait pour faire émerger les postes où il y a plus de travail en fait sur l'impact. Concrètement, on a ciblé la teinture, on a ciblé les matières premières. On va dire que ça se passe beaucoup au niveau du sourcing. Et c'est là où le designer, son rôle va être justement d'interagir avec ses services de manière beaucoup plus régulière et beaucoup plus profonde. Il faut vraiment qu'on accroît en fait notre domaine de connaissances sur ces choses qui étaient jusqu'à présent pas forcément transparentes. Vous imaginez pourquoi ? On a des sous-traitants qui ont eux-mêmes des sous-traitants. On a un univers aussi... on va dire de réglementation qui est aussi de plus en plus contraignant, mais on sait que le design aussi se nourrit de ces contraintes. Donc notamment, je peux prendre des exemples très concrets sur la création des couleurs. Jusqu'à présent, le process, donc, c'est analyser les tendances, dessiner les nouvelles couleurs, développer les matières dans ces nouvelles couleurs, et puis faire cette collection. Aujourd'hui, on re-questionne vraiment ce process par le biais de teintures qu'on appelle des teintures e-dye, qui utilisent beaucoup moins d'eau. Il n'y a pas que l'impact carbone, bien évidemment, qui utilisent moins d'eau. Mais par contre, voilà, cette couleur palette, en fait, elle va être beaucoup plus restreinte qu'aujourd'hui un Pantone Book. Donc concrètement, ça change complètement le paradigme de création de la couleur. Mais en amont, encore une fois, ce qui est important, c'est l'ACV. C'est l'outil aujourd'hui le plus concret sur lequel on travaille. Après, il y a évidemment, je parlais du sourcing, peut aussi, alors on travaille comme la plupart des boîtes d'outdoor avec l'Asie, mais aussi avec nos propres usines qui sont un petit peu plus proches que l'Asie, notamment en Roumanie, en Tunisie. On a ou si plus récemment, travailler avec l'usine ASF, Advanced Shoe Factory, donc en Ardèche, avec laquelle, clairement, on re-questionne en fait le modèle du produit, le dominant design du produit. On re-questionne sa valeur, on re-questionne son usage, où il faut repenser concrètement le produit différemment. Donc, c'est aussi une des manières de travailler sur cet impact carbone avec, je dirais, des contraintes et évidemment économiques qui sont complètement différentes. Voilà, mais c'est tout ça, c'est, on va dire, c'est de l'exploration. C'est un changement de paradigme, donc il faut être résilient. Là, c'est un petit peu le mot à la mode, mais clairement, je pense qu'il faut, l'être. Il faut être beaucoup plus ouvert à ces évolutions qui sont très, très rapides. Et il faut aussi, encore une fois, j'en reviens toujours aux besoins, mais savoir où sont les vrais besoins, quoi. Parfois, on a pu faire l'erreur de faire ce raccourci de l'éco-conception qui est de dire, je vais utiliser des matières recyclées. D'une part, on n'avait pas forcément le recul sur vraiment l'impact de ces matières recyclées. D'autre part, on ne sait pas si ça correspond vraiment à un besoin. Bien évidemment, on doit répondre aux besoins basiques, aux besoins exprimés. Est-ce que demain, ce sera un besoin incontournable, fondamental? Je veux dire, toutes ces questions, on se les pose quotidiennement. Donc, encore une fois, il faut passer du temps sur le terrain, il faut passer du temps en magasin. On n'a pas que le consommateur comme interlocuteur, on a aussi le client, c'est-à-dire celui qui va intégrer nos marques dans ses magasins. Il faut comprendre aussi ses besoins, il faut comprendre les enjeux aussi qu'il y a autour de cette problématique très très complexe et qui change complètement la façon de pratiquer le design. Là, l'élément de comparaison, alors je parle un petit peu comme un vieux, mais c'est vrai qu'il y a 15 ans, quand je suis arrivé, je ne dis pas qu'on ne se souciait pas de ça, encore une fois, on a été sur la fumée précurseur, mais il y avait cette profusion de matériaux, cette profusion de process, qui amenait aussi une forme de complexité. Aujourd'hui, je pense que je dirais que ce sera un peu le mot de la fin, mais en tout cas, encore une fois, sans prétention, mais il faut penser rationalité, il faut penser durabilité, il faut revenir, je dirais, à l'essence de ce qu'est un bon produit et de ce que finalement on souhaite tous quand on achète ou on n'achète pas, puisque faire des co-conceptions, c'est aussi repenser peut-être le business model et le mode de consommation. Donc voilà, cette pratique de design, elle est quand même super large, elle se limite pas qu'aux produits, mais bien évidemment à d'autres choses. Et c'est vrai que je le vois bien avec nos stagiaires, nos alternants, puisqu'on se soucie aussi de transmettre aussi cela à des étudiants, qu'ils arrivent aussi avec cette agilité, on va dire, de designer, d'imaginer l'offre sous un autre angle, en fait, qui est une sensibilité exacerbée chez eux et que nous, évidemment, il faut qu'on crédise après dans l'industrie qui est en profonde transformation. Et je pense qu'on en prend la bonne voie et on voit que toutes les équipes sont mobilisées pour mieux faire les choses, quoi. Même si parfois, quand je vais sur les réseaux sociaux, franchement, ça me fait de la peine de voir comme certaines marques se font démonter. Alors, il faut faire la part des choses. On a des consommateurs qui sont très critiques, qui n'hésitent pas en fait à exprimer leur frustration, leur questionnement aussi sur des marques qui n'évoluent pas forcément. Alors nous, c'est pas notre cas. On a pris le taureau par les cornes. On n'est pas irréprochable. On sait qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. En tout cas, le design a sa place. Et ça, c'est vraiment un facteur de motivation qui me pousse à continuer à être designer, parce qu'on pourrait se poser aussi des questions sur le sens de notre métier.
Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup. C'était un joli mot de la fin et merci pour ta participation.